Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour frère Philippe.
Nous parlions dans notre précédent entretien de l'institution des douze et de la place centrale ou la première place que tient Simon-Pierre dans cette institution. Je réfléchissais en me disant que est-ce que la place centrale donnée à Pierre ne va pas prendre, ne complique pas notre sens écuménique finalement. Est-ce que jusqu'où va-t-il falloir appuyer cette place centrale de Pierre? Alors dans l'Évangile, les choses sont dites très clairement. Jésus va bien lui dire, hein, sur tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, où je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans le ciel, etc. Ou bien paie mes brebis, dira-t-il après la résurrection. Mais est-ce que l'insistance que l'on peut faire sur la place centrale de Pierre ne risque pas de poser de problème? Et après, y a-t-il une place centrale de Rome, finalement, là où Pierre s'est rendu? Comment s'en sortir en restant juste du point de vue écuménique et en même temps juste du point de vue de ce qu'on lit dans l'Écriture?
Oui, c'est cet aspect du futur que Jésus utilise à chaque fois qu'il parle à Pierre qui montre bien sa volonté de pérennité. Il ne s'agit pas seulement de paroles qui diraient « tu es mon vicaire maintenant ». Non, il lui annonce tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est considérable, c'est-à-dire c'est quelque chose qui montre une pérennité, et c'est cela qui a permis à l'église petit à petit de comprendre que, comme disait saint Augustin, Pierre est la personnification de l'universalité et de l'unité de l'église, et donc quelque chose qui se maintient. Père de tout le peuple chrétien, dira encore saint Augustin, Père, Pater, Christiane, Plébis. C'est extraordinaire, c'est-à-dire que Jésus a lui-même donné, je dirais, le moyen de l'unité. Un jour, un de nos papes, comme saint Paul VI, disait on veut chercher un nouveau système d'unité avec le Conseil œcuménique des Églises, mais l'Écriture nous en donne déjà un. Jésus en a déjà constitué un. Pourquoi chercher ailleurs? Et il dit, moi je suis tout prêt à reprendre comment le fonctionnement de ce ministère pétrinien, et Jean-Paul II accentuera les choses dans Ut Unum Sint, cette grande encyclique suite au Concile Vatican II, où il dit, mais je suis tout prêt à rediscuter comment vraiment établir la manière concrète dont ce ministère d'unité doit se décider. De fait, il y a eu beaucoup d'accords œcuméniques, en particulier avec les Anglicans, qui ont dit c'est vrai que l'Église ne peut pas se passer d'un ministère œcuménique, et les orthodoxes ont souvent reconnu dans le ministère de Pierre le rôle de primus inter pares, premier parmi les égaux, et montrant par là qu'il y a une soif d'une unité concrète et pas seulement d'une sorte d'accord par consensus, toujours fragile entre des courants, des modes, etc. Et que très certainement, il y a eu quelque chose de providentiel dans lequel le Seigneur a fait que Pierre, qui avait débuté sa vie sur le bord du lac de Génézareth, puis avait été à Jérusalem accompagner le Seigneur, puis finalement avait été envoyé en mission à Antioche, et puis à Rome, était mort martyr à Rome. Donc il y a eu quelque chose d'assez extraordinaire dans la découverte de la place de Rome dans cette histoire. Et cette place de Rome a toujours frappé les premiers écrivains ecclésiastiques. Par exemple, saint Irénée disait « C'est avec cette Église que doit nécessairement s'accorder toute Église dans le monde ». Vous voyez, une compréhension donc de la place de Rome. Tertullien s'exclamait « Heureuse Église !» et saint Ignace d'Antioche parlait de Rome comme celle qui présidait à la charité. Donc il y a eu une prise de conscience très nettement que le rôle de Rome n'était pas facultatif, hein, afin de montrer davantage son pouvoir, c'est dans Rome même qui était la tête de l'univers, qu'il a établi la tête de son Église en signe de parfaite victoire, disent encore les grands commentateurs médiévaux. Et je pense qu'il y a effectivement une présence de Rome dans les Écritures qui parfois n'est pas connue de nos fidèles.
Oui.
D'abord, il y a l'Épître aux Romains, bien sûr, qui est très importante, qui est la plus dogmatique de toutes les églises de Saint Paul. Et d'autre part, ce passage assez extraordinaire, qui est une apparition spéciale. On connaît surtout l'apparition que Saint Paul a eue sur le chemin de Damas, où le Christ ressuscité lui est apparu pour le convertir et lui permettre de devenir missionnaire de l'Évangile. Mais il y a eu, au cours de l'incarcération de Saint Paul, une phrase de consolation que Jésus est venu apporter à l'apôtre qui était prisonnier dans sa situation devant à Jérusalem, où il était obligé de témoigner devant le Sanhédrin qui voulait le condamner à mort. Une nuit, le Seigneur vint lui-même le trouver, et nous sommes donc au chapitre 23 des Actes des Apôtres, chapitre verset 11. Et lui dit, et c'est là où il y a ce passage que l'on estime être une sorte de transfert de Jérusalem à Rome, c'est cette parole si forte, « Courage, de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, ainsi faut-il encore que tu témoignes à Rome. » Un jour, je rencontrais un luthérien qui me disait, « Oui, mais on parle toujours de l'Église romaine, mais ce n'est pas dans l'Écriture. » Ben si, Acte 23, hein, voilà. Donc il y a vraiment quelque chose de scripturaire et qui a bien montré la volonté du Seigneur que le témoignage qui était habituel depuis toujours, depuis la fondation de l'État du royaume d'Israël, où David a régné d'une manière pérenne à travers les rois et avec les difficultés bien sûr des envahisseurs grecs ou romains, mais il y a eu quand même une pérennité à Jérusalem du royaume instauré depuis David, et bien d'un seul coup il y a vraiment une parole du Seigneur qui insiste sur ce transfert de Jérusalem à Rome. Et c'est pour cela que tout le monde a voulu un peu être Rome. Et Byzance est appelée la deuxième Rome, Moscou s'appellera la troisième Rome, parce que tout le monde veut un peu tirer la couverture à soi. Donc en matière œcuménique, il ne faut pas être naïf, mais historiquement, il n'y a jamais eu que la Rome où Pierre a rendu témoignage, et le pape Pie XII avait beaucoup insisté pour qu'on retrouve la vérité de cette présence de Pierre à Rome. Il avait fait faire les fouilles pendant la Deuxième Guerre mondiale, où on faisait peut-être moins attention aux choses, puisque Rome n'était pas assaillie de touristes. Et donc, on a creusé, on a cherché, et on a retrouvé les reliques de Saint-Pierre, donc sous le maître-autel de la basilique Saint-Pierre. C'est quand même très émouvant de penser qu'on ait retrouvé les reliques de Pierre, avec une inscription en grec qui désignait « là, il y a Pierre », et on a compris que ces ossements qui étaient entourés d'un tissu de pourpre de grande valeur avec des fils d'or avaient dû être mis à l'époque constantinienne où on a voulu honorer les reliques de Pierre. Et donc on a vraiment la certitude que les reliques de Pierre sont à Rome, dans la basilique Saint-Pierre, et que le chef, la tête de Saint-Pierre a été mise au-dessus du grand édifice de Saint-Jean du Latran, au-dessus donc de l'autel de Saint-Jean de Latran, et on a fait un test d'ADN, comme on sait faire maintenant, entre cette tête de Saint-Pierre au-dessus donc du baldaquin de l'autel de Saint-Jean de Latran et ses reliques trouvées sous Saint-Pierre de Rome, et on a vu que c'était le même corps et avec des caractéristiques tout à fait étonnantes d'un homme qui viendrait du bassin méditerranéen, de cette zone, et certainement un sémite. Donc il y a vraiment de fortes, fortes convergences, je dirais, scientifiques. Ça ne prouve jamais rien, mais il y a de fortes convergences scientifiques qui montrent que nous avons bien Pierre, que nous avons gardé les reliques de Pierre depuis les origines. D'ailleurs, un jour, un pape dans les premiers conciles s'était proposé d'aller au concile d'Orient. Il y a eu Nicée, Constantinople, Éphèse, Chalcédoine, et à cette occasion un pape avait dit mais ce serait peut-être bien que j'y aille à ce concile, et les évêques du Moyen-Orient lui ont répondu mais tu as bien mieux à faire qu'à venir à notre réunion, il faut que tu gardes les reliques de Saint-Pierre. C'est quand même émouvant de penser ça. Et donc cette fidélité à la présence de Pierre à Rome est pour nous un gage évident d'unité. Et il faut prier pour que cette découverte se fasse dans le cœur de ceux qui sont encore désunis malheureusement par l'histoire, mais qui ont quand même les textes, qui ont l'histoire de l'Église, qui devraient les aider à faire ce retour à Rome.
Eh oui. Je précise, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas du tout Rome, Saint-Jean de Latran étant la cathédrale de l'évêque de Rome.
De l'évêque de Rome, exactement, alors que Saint-Pierre n'est qu'une basilique,
D'où mortuaire. L'importance aussi de la, tu disais, la relique de le crâne de Saint-Pierre, qui est à Saint-Jean de Latran.
Saint-Jean de Latran, on a mis d'ailleurs de l'autre côté le crâne de Saint-Paul, pour bien montrer que ce sont les deux fondateurs de la Rome chrétienne, dans le fond Saint-Pierre et Saint-Paul, qui sont toujours associés dans la prière de l'Église de Rome, les deux grands protecteurs de l'Église de Rome, puisque les deux ont donné leur sang, ont versé le sang du martyr à Rome dans le témoignage de leur foi vivante à Jésus-Christ.
Oui. En tout cas, c'est très intéressant de retrouver cette place de Rome déjà dans l'Écriture, quand tu parlais du transfert de Jérusalem à Rome, et ça ne demande pas une gloriole pour qui que ce soit. Et catholique romain, c'est vraiment de se dire il y a un principe d'unité, et c'est ce principe d'unité qui pour nous est important. Merci frère Édouard.
Merci.